Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cette seconde partie de l'entretien avec Milica Tomasevich. On reprend au moment où Milica était en train de nous expliquer en quoi a consisté sa thèse. Bonne écoute.
Est-ce que tu peux nous en dire plus et nous expliquer sur quoi tu as travaillé pendant ta thèse?
Oui, oui. Ok, j'essaye. Dans ma thèse, donc il était question de l'interprétation probabiliste d'un modèle EDP.
D'accord.
Très connu en biologie.
EDP, équation dérivée partielle.
Oui. Très connu en biologie cellulaire, qui s'appelle le modèle de Kaller-Sagal. Donc, j'explique d'abord le phénomène derrière.
Ouais.
Pour qu'on puisse après comprendre qu'est-ce qu'on va étudier du côté probabiliste, c'est quoi l'interprétation probabiliste. Donc le phénomène en question, c'est le chimiotactisme, et donc c'est le déplacement d'une population des cellules en fonction des signaux chimiques dans leur environnement. Donc t'imagines, je sais pas, une population de bactéries, les bactéries aiment bien le sucre, donc si tu leur mets le sucre dans leur environnement, les bactéries vont diriger leur... Même si elles se déplacent de façon aléatoire, genre le mot aléatoire, donc c'est probabiliste. Donc, elles se déplacent de façon aléatoire, tu peux pas vraiment prévoir leur mouvement, mais tu vois que petit à petit, la population, elle s'organise un peu, et elle commence à se diriger vers la zone où il y a beaucoup de sucre, et à la fin, elle termine à s'agglomérer autour de la source, le source de cette attraction du sucre. En faisant ça, la population est aussi capable à communiquer, entre guillemets, parce que elle est attirée par des signaux chimiques, donc c'est pour ça que ça s'appelle chimiotactisme, donc c'est un mouvement dirigé par des signaux chimiques, mais elle est aussi capable à produire des signaux chimiques pour effectivement laisser la trace aux hôtes, parce que...
Hey les gars, il y a du sucre par là.
Exact, exact. Sauf que les cellules peuvent pas parler, peuvent pas de cerveau, etc. Mais c'est quand même bluffant que elles peuvent s'auto-organiser. Donc c'est un phénomène de auto-organisation, ça manque aussi, qui permet du coup à une population qui n'est pas intelligente de performer une action intelligente. Voilà. Et je sais pas si tu as suivi ce qui a été beaucoup médiatisé récemment, c'était le blob.
Ah oui.
Si vous avez suivi, chers auditeurs, le blob avec le CNRS, bah le blob utilise le même mécanisme. Donc quand vous lui mettez de la nourriture, c'est il résout des mazes, résout des problèmes.
Ouais, des labyrinthes.
Oui, voilà. Ouais. Et donc en fait, je pense qu'on lui met de la nourriture et donc c'est lui qui cherche aussi. Donc il peut se déplacer aussi comme ça. Et donc, cette capacité entre les cellules qui sont motiles, donc qui peuvent se déplacer. Et par exemple, dans notre corps, c'est des globules blancs qui utilisent le chimiotactisme beaucoup. Donc, notre système immunitaire utilise le chimiotactisme quand on est en train de nous soigner. Donc, si aujourd'hui, tu vas te blesser en se levant de ta chaise, tu vas couper un peu ta main, il y a des choses qui vont rentrer dans ton sang qui ne doivent pas être là. Et ça va être des signaux chimiques pour tes globules blancs qui vont nager de façon aléatoire dans ton sang, mais quand elles sentent la présence de ces nouveaux agents chimiques elles vont se dire, on va y aller, on va les tuer, c'est un peu leur but, hein. Mais, c'est comme ça qu'elles savent où aller pour te soigner. Et malheureusement, c'est aussi comme ça que c'est comme ça que le tumeur aussi, c'est une des choses qui se passe quand un tumeur, fait sa métastase, parce que les cellules cancérogènes cherchent un nouvel environnement, elles vont aller et du coup pour s'attirer, pour dire où il faut aller migrer, etc. D'accord. Elles utilisent les signaux chimiques. Et donc c'est ça un peu le phénomène derrière qui motivait l'étude dans ma thèse. Et et donc il y a un modèle très célèbre dans les équations de dérivée partielle pour ce phénomène qui s'appelle le modèle de Kaller-Sagal, qui a été posé dans les années 70, et c'était un peu une collaboration aussi interdisciplinaire entre deux chercheurs, je pense Mathieu et puis biologiste ou physicien, en tout cas.
D'accord.
J'ai un peu lu ça, mais un peu, j'avoue que j'ai oublié. Il y a un très bel article de une ou deux pages, l'aventure de modèle de Kaller-Sagal, quelque chose comme ça, où une des deux, je pense Kaller, explique comment ils ont fait ça et qu'il y avait une espèce de sabbatique d'un qui est venu dans la fac de l'autre, qui se sont rencontrés, qui ont passé beaucoup de temps à discuter et que C'est comme ça que ça a été né, hein, mais c'est vraiment une collaboration interdisciplinaire. Et donc, il voulait modéliser le début de ce phénomène. Le fait que les cellules sont capables assez organisées de partir dans une direction. Et ils ont posé ce système d'équations où on modélise en fait donc la population des cellules par leur densité dans l'espace, dans lequel on est, et les composantes chimiques, donc les signaux, par une concentration. Donc il y a deux agents encore, et donc il y a deux équations pour les deux, et elles sont couplées. Une dépend
deux de agents chimiques, tu veux dire?
Oui,
ouais,
voilà.
D'accord.
Donc, les cellules vont suivre, ils vont aller où il y a de agents chimiques. Donc ça c'est transcrit dans une équation, dans l'équation, et vont aussi avoir un mouvement un peu aléatoire, donc ça c'est transcrit aussi. Et après en fait la concentration va avoir sa propre équation, et aussi
oui, qui elle aussi évolue,
voilà,
parce que elles peuvent consommer, je suppose.
Exact.
D'accord.
Donc elle évolue, donc le signal chimique aussi il peut avoir un mouvement aléatoire, mais il peut être un peu s'étaler partout. Et il peut être consommé, mais il est produit aussi.
Ah, d'accord.
Et c'est là où, donc.
Par les organismes?
Par les organismes. Ah, exactement. D'accord. Parce que c'est toutes les signaux chimiques, on les agrège. Est-ce que c'est la nourriture? Est-ce que c'est...
Ah, d'accord.
Donc on agrège tout et on dit, il y a quelque chose qui nous attire, c'est soit les signaux qu'on s'envoie entre nous, soit quelque chose qui est déjà placé extérieurement dans le système. Tout ça, ça a été agrégé. Et donc nous, en tant que cellule, on est capable de produire le signal chimique. Et donc c'est un système, c'est là où il y a le couplage de deux équations, donc c'est là où ce modèle a été, bon, c'est une simplification de ce modèle a beaucoup de facettes, j'imagine, et de versions, etc., mais c'était le modèle classique minimal que j'ai étudié. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une transition de phase, c'est-à-dire qu'il y a un régime des paramètres dans lequel les solutions de cette équation, donc les solutions thermiques, explosent en temps fini. C'est-à-dire, donc, biologiquement, disons, il y a une agglomération des cellules.
D'accord.
Donc, il y a un Dirac, ce qui s'est formé quelque part. Donc,
tout le monde est au même endroit.
Tout le monde est au même endroit.
Ouais.
Et le modèle est capable de produire ça en temps fini. Donc on pourrait se dire, bah donc le modèle ça va pas, il est pas bien défini en temps fini, donc faut chercher un autre modèle. Mais c'est pas, moi je le vois pas comme ça. Moi je le vois plutôt, le modèle il est capable à produire une singularité, et c'est exactement un peu ça qui se passe. Il y a rien qui explose dans le monde réel, mais ce qu'on observe, c'est que toutes les bactéries sont au même endroit.
Ouais, d'accord.
Et donc, le modèle aussi est capable à te dire.
Donc, ça approche quand même quelque part bien ce que vous observez empiriquement.
Bah, pas moi, mais...
ce que l'on observe empiriquement.
Exact. Donc, il y a une capacité à observer. Donc, il a cette puissance à dire, voilà, si la fois... Qui est très logique, non? Mais quand même, il faut trouver des régimes dans lesquels soit il y a beaucoup de cellules, soit il y a beaucoup de signaux, soit beaucoup d'attractions. Et alors, les cellules vont aller au même endroit, et on peut estimer combien de temps il leur faut, où ça va être, etc. Tout ça est fait, toute cette modélisation que je viens de te raconter, elle est faite de point de vue macroscopique. C'est-à-dire, on suppose qu'il y a une infinité de cellules.
Oui.
Donc, on fait cette hypothèse. Et on se trouve avec les équations de dérivée partielle, donc il n'y a rien d'aléatoire, même si j'ai mentionné plusieurs fois mouvement aléatoire, etc. Mais dans l'équation d'un soi, il n'y a rien d'aléatoire. Et donc, l'enjeu de ma thèse a été de transcrire ça à un modèle probabiliste, dans lequel je suppose plus qu'il y a une infinité de cellules. Donc, quand tu supposes qu'il y a une infinité de cellules, c'est comme si tu as dézoomé l'image. Oui. Tu regardes de loin. Et là, bah, t'es en train de zoomer à l'intérieur, et tu te dis, allez, je suppose qu'il y en a N des cellules. Il y en a 1000, il y en a 10 000, il y en a 1 000 000.
Ouais, c'est des points qu'on a déjà abordés dans les épisodes précédents. Il y a en fait plusieurs échelles de description.
Exact.
Et donc toi, tu étais à l'échelle macroscopique que tu dis très justement, tu as dézoomé, et là, tu rezoomes pour aller à l'échelle microscopique.
Exact.
Pour voir,
et tu t'intéresses à un nombre fini d'agents. Est-ce que ces agents sont les cellules ou quelque chose d'autre? À la fin, une fois quand tu fais de maths, tu oublies un peu, mais... et souvent, moi, j'utilise le mot particule, donc je m'excuse, j'utiliserai pas le mot cellule, mais particule. Donc, mon sujet a été de écrire un système des particules en interaction qui sera l'ensemble microscopique de ce modèle. Dans le cas, comme dit mon intitulé parabolique, c'est-à-dire le cas dans lequel la composante chimique évolue dans le temps. Elle n'est pas dans son état stationnaire, elle est dans, dans un état évolutif. Donc, t'imagines, je dépose un signal, moi je m'en vais, et toi, tu repasses au bout de 10 minutes. Donc, tu aperçois quelque chose que je laissais dans le passé pour toi. Et ces choses a évolué. Et donc, toi, tu... Donc, il y a une espèce d'interaction entre nous qui se passe, mais qui est à travers le passé, mon trajectoire de où je suis passé. Et donc, j'ai transcrit ce modèle à un système des particules en interaction où chaque particule avait une composante aléatoire. Donc, chaque particule représentait une cellule et son mouvement. Et le mouvement était aléatoire parce qu'il y avait un mouvement Brownien derrière. Et voilà, le mouvement Brownien, c'est quelque chose que, qu'on imagine quand on regarde les cellules, non, qu'elles bougent un peu, on peut pas prévoir grand-chose. Et donc, c'est une trajectoire continue qui bouge un peu. Mais après,
Souvent, pour l'expliquer, on dit aux gens de visualiser le mouvement d'un pollen qui se déplace. C'est ça, le mouvement Brownien, je crois, originellement.
Oui. Et après, donc, le mouvement Brownien a ce qu'on appelle son drift, c'est-à-dire il est perturbé, il a une partie, disons, déterministe, un endroit qui lui attire, un drift, quelque chose qui lui pousse dans une direction. Mm-hmm. Et ça, c'est une équation stochastique, donc c'est pas juste le mouvement Brownien, c'est le mouvement Brownien plus quelque chose. Et ce quelque chose, donc, c'est quelque chose qui en gros dit à la cellule dans ce cas-là, bah où il faut aller. C'est quoi la direction?
C'est là où tu vas encoder une direction privilégiée.
Exact. C'est juste que c'est pas si géométrique. C'est plutôt genre tu regardes un peu où sont les autres et t'es attiré par les autres en fait. Et donc t'as une attraction. Et donc t'as une interaction ce qu'on appelle de type champ moyen. C'est-à-dire tu vois un peu tout le monde et tu vois en fait la mesure empirique de ton système et tu interagis avec la mesure empirique. Donc toi,
la mesure empirique, c'est un peu comme une moyenne de tout ce qui se...
Oui, c'est en gros, tu mets le poids 1 à chaque endroit dans l'espace où tu as quelqu'un. Mm-hmm. Voilà, ça c'est... Et donc, tu interagis en gros avec tout le... C'est comme si tu pouvais un peu voir l'état moyenne de tout le monde et te dire, voilà, je vais être attiré. Donc, ça veut dire que 2 à 2, l'interaction est... si moi, je suis une cellule, on s'y attire. On s'attire et donc et on est peut-être attiré par quelque chose à l'extérieur, donc il y a aussi une composante qui explique ça aussi, et donc on cherche d'aller vers un endroit, on s'attire mutuellement, ce qui est exactement ce qui se passe parce qu'on s'envoie des signaux, et en plus on est perturbé par le Brownien parce que on n'est pas si intelligent que ça, on peut pas juste aller tout droit au bout vers l'endroit où il y a ce qu'il nous faut. Et donc voilà, donc j'ai posé ce système des particules dans l'interaction, et la spécificité de ce système a été ce que je te disais, cette interaction avec les trajectoires. Donc c'est un aspect donc ce qu'on dit un proba non markovien. Donc la markovianité, c'est quelque chose de central en proba, c'est quelque chose qui te dit en gros, si tu veux savoir comment tu vas évoluer dans le futur, il suffit de savoir ce qui se passe maintenant. Ça, c'est la markovianité, donc la propriété de Markov, en gros. Donc ça, il n'y a pas besoin de savoir où tu étais avant pour décider qu'est-ce qui va se passer.
Ton regarde futur ne dépend que du présent.
Exact. Par contre, dans ce système, ce qui a été hérité de ce couplage d'équations dérivées partielles, qui a été parabolique, donc c'est que on a hérité le passé. Donc on est quand même, on a vraiment le droit vraiment savoir où ont été les autres particules, par où elles sont passées, pour pouvoir décider où on va aller et comment le signal a évolué entre l'autre. Et donc, voilà.
Donc, du coup, tu es non markovien parce que tu dépends du passé.
Le système est non markovien, c'était la grosse difficulté. Et en plus, pour avoir ce comportement, tu vois, la transition de phase, c'est ce que je disais, quand tout le monde va au même endroit, c'est quelque chose qui est un peu singulier comme phénomène. Pourquoi? Parce que on n'a pas la tendance de tous aller au même endroit, sauf si on a une forte attraction de cet endroit. Et donc pour que tu obliges les objets mathématiques d'aller quelque part, il faut que tu leur donnes de la singularité dans les interactions. C'est-à-dire il faut qu'on s'attire, mais il faut qu'on s'attire de sorte que notre attraction explose le coefficient de notre attraction si on est très proche, parce qu'il devient plus en plus grand qu'on s'approche pour qu'on ne se sépare pas. Et donc c'est là où les coefficients de ces équations que j'ai étudiées ont été pas seulement non markovien, mais aussi singulier. Donc, c'était des fonctions singulières. Donc, mon cas a été un peu atypique parce qu'il était non markovien et singulier. Mais voilà, c'était hyper intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai trouvé aucun modèle dans la littérature qui l'assemblait à mes particules.
Les deux.
Ouais, les deux ensemble, ouais. Et donc, voilà, c'était très motivant de se dire, voilà, allez, on va essayer de faire quelque chose.
Et juste pour aller jusqu'au bout, ton travail, ça consistait à lier ces échelles de description.
Exact. Donc,
c'est-à-dire de partir de l'échelle micro.
Alors, ça, c'est toujours la première question. Et même, il y a une question encore qui est la première. Donc, ça, c'est la deuxième, je dirais. La première question, et c'est quand tu poses ton objet microscopique, et comme il combine ces deux difficultés, ta question est-ce que ce problème est bien défini?
Oui, d'accord.
Et est-ce que ce système des particules, donc ces N cellules que je décris, que je dis voilà, ça c'est comment elles devaient se comporter, est-ce que ça a du sens mathématiquement?
Oui.
Et comme ça sort de cadre classique, bah t'es obligé d'abord à te poser, à te dire non mais attends, avant d'envoyer N vers l'infini et voir le lien, est-ce que ça a du sens?
Ok.
Et ça, parfois, c'est une question qui semble anecdotique, parce que souvent on suppose des coefficients réguliers et on se dit on n'a pas besoin de s'embêter, mais en fait non, c'est une question fondamentale, parce que quand on pose un modèle, la première question, est-ce qu'il est opérationnel?
Bien sûr.
J'ai le droit à l'utiliser et sur quelles conditions? Et souvent, du coup, quand on sait déjà qu'à l'échelle macroscopique il y a des problèmes, on sait que aussi à l'échelle micro il y a des problèmes, et donc on sait qu'on pourra pas définir le modèle avec tous les conditions initiales ou je sais pas, avec tous les paramètres possibles. Et donc, on cherche d'abord des conditions sur lesquelles ça marche. Et ensuite, la deuxième question naturelle, c'est est-ce que ça converge lorsqu'on tend vers l'infini? Donc, est-ce que ça va vers le modèle des pistes? Et à la fin, une fois quand on a ces deux questions fondamentales, on a répondu ça, c'est déjà rempli beaucoup.
Oh oui. c'est un beau programme déjà.
On peut se poser plein d'autres questions. Donc ça ouvre les portes à plein de choses. À quel taux ça converge? Qu'est-ce qui se passe en temps long? Et dans ce cas-là où il y a des singularités, où il y a des agglomérations, il y a plein de questions. Comment ça s'agglomère? Comment ça collision? Et plein de questions qu'on peut se poser. Et aussi, ce phénomène, évidemment, tu t'es dit, avec les cellules, tu travailles dans une dimension dans laquelle les biologistes travaillent. Les biologistes travaillent toujours en dimension 2, parce que c'est le plan, hein, c'est quelque chose. La dimension 3, ils aiment pas trop. Donc, parce que les expériences qu'ils font, c'est surtout toujours la boîte Petri, donc c'est toujours dimension 2.
Oui, ça a du sens.
Mais, la question mathématique, elle tient dans toutes les dimensions.
Bien sûr.
Et en changeant la dimension, tu changes tes coefficients, tu changes ton problème. Et donc, en fait, dans ma thèse, donc j'ai traité la dimension 1 complètement, et la dimension 2, j'ai traité partiellement. Il y a une échelle entre les deux, parce qu'on a parlé de micro et de macro.
Oui.
Mais il y a aussi l'échelle macro pour nous, qui est aléatoire, qui est la particule typique. Donc, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est quand tu as ton équation dézoomée, donc t'es au niveau n égal à infini, et donc tu as ton EDP, mais tu peux aussi te poser la question, qu'est-ce qui fait une cellule typique dans cette nuage infinie? Comment il se comporte? Et donc ça, c'est un objet aléatoire, parce que la cellule typique, donc elle a un
nom
aléatoire, mais c'est un processus un peu inhabituel, hein, dans le calcul stochastique. On l'appelle le processus non linéaire, parce qu'il interagit avec sa loi.
Bah super, c'était très clair, merci beaucoup. Et c'est très intéressant, donc top. On voit très bien les questions qui t'ont intéressé. Si on revient du coup, on va laisser un petit peu les sciences pour revenir à des choses un peu plus terre à terre quelques instants. Donc cette période de thèse, comment est-ce que tu l'as vécu? Est-ce que ça t'a plu?
Ah oui, énormément. C'était une expérience incroyable. Je trouve que j'étais encore une fois très privilégiée, comme je l'ai été le long de mon cursus, parce que j'étais dans une petite équipe d'ambiance super sympa à l'INRIA. Donc l'INRIA, c'est l'Institut de recherche nationale. Et j'étais donc à côté de Nice, à Sophia Antipolis. Et notre équipe, c'était une équipe de maths, de 4-5 permanents, même pas, même moins. trois, je dirais, et beaucoup de doctorants et stagiaires. Et mais c'était une petite famille parce qu'on n'était pas nombreux. C'est pas la même ambiance qu'à l'université ou dans le labo. Et t'es en fait en contact avec tout le monde tout le temps. Tu déjeunes avec ton équipe, c'est ça la spécificité d'INEA et des équipes INEA que j'adore. Et que donc en fait tout le monde se retrouve midi et va déjeuner ensemble, les permanents, les étudiants, les post-docs, les stagiaires, l'assistant de l'équipe, donc tout le monde. Et ça te donne quand même un accès privilégié à ton directeur de thèse, et que pendant que tu fais ta queue à la cantine, bah tu peux lui poser une question. c'est plutôt lui qui te pose la question, comment ça va, est-ce que tu as résolu ton problème de hier, etc. Donc ça te permet quand même de ne pas rester tout dans ton coin. Je trouve que c'est une expérience complètement différente que dans les grands laboratoires ou dans les universités, parce que là on est vraiment les uns avec les autres, c'est vraiment une ambiance recherche. À l'INEA, surtout à Sofia, je dirais, parce que après je connais pas toutes les INEA, mais à Sofia c'est une super expérience d'ambiance de recherche. Et aussi le centre en soi, donc il y avait plein de doctorants, je pense 150 à l'époque, et des domaines différents parce qu'il y a plusieurs champs de recherche, etc. Il y en a 5 ou 6. Et donc on avait un séminaire de doctorants que j'ai organisé, et du coup on s'est retrouvés, et j'ai connu, pour la culture scientifique c'est incroyable, parce que tu, au même endroit, tu retrouves les gens qui travaillent sur les problèmes complètement différents. C'est pour des maths, c'est peut-être info, ou c'est de analyse d'image, ou c'est autre chose, et t'as quand même un accès privilégié à ce qu'ils font, et c'est incroyable. C'est vraiment, ça te motive tellement de voir autant de choses qui se font en même temps que ce que tu fais, que tu as vraiment envie de travailler, et c'était vraiment super. Et j'avais après un super rapport avec mon directeur de thèse. Je savais que je pouvais toujours toquer sa porte et poser des questions, effectivement, même si je voyais pas parce qu'il était en voyage ou je sais pas, en mission longtemps, je savais que je pouvais, dès qu'il arrive, lui poser mes questions ou bien lui envoyer un mail. Donc il y avait beaucoup de communication. Et j'ai développé une super relation, même que j'entretiens aujourd'hui, et que voilà, j'apprécie beaucoup le temps passé, et la relation que j'ai aujourd'hui avec mon directeur, et même avec les autres chercheurs de l'équipe avec lesquels je reste en contact.
Ok, super. Et t'as mentionné, c'est marrant, t'as utilisé le terme ambiance de recherche. Mm-hmm. Et est-ce que toi, à l'époque, pendant ta thèse, tu te sentais déjà chercheuse?
Ah oui, je pense oui, tout à fait. En fait, je me sentais chercheuse parce que déjà, je cherchais tout le temps. en fait, c'est pour le temps que tu es dedans, en fait, le base, l'atmosphère, t'arrives, tu passes dans le centre, tu regardes à gauche, il y a une grosse salle de séminaire, il y a des gens ici dedans qui présentent, tu rentres dans ton bâtiment, parce qu'il y en avait plusieurs, tu rentres dans ton bâtiment, tu descends dans ton bureau, tu vois les gens discuter dans leur bureau, écrire au tableau, ou projeter des slides et tout ça. Et voilà, tu rentres tout de suite dans une boule, et tu te mets dans ton bureau, et j'étais très privilégiée, j'avais un bureau toute seule. Donc pendant la thèse, c'est vraiment génial. Tu rentres dans ton bureau, tu te poses devant ton tableau, et oui, tu fais partie de tout ça. Et j'ai l'impression que dans les instituts, au moins à Sofia, ce que j'ai senti, c'est que les doctorants sont tellement vite intégrés et que on se pose même pas les questions. C'est des chercheurs. Les post-docs, c'est des chercheurs. Tout le monde, genre là, tout le monde est des chercheurs, et c'est très très international aussi comme ambiance. Ça part toutes les langues, et dans tous les coins, et aussi l'anglais est parlé tout le temps aussi. Donc t'as vraiment l'impression d'être de ne pas, en fait, si t'arrivais avec une caméra et tu faisais de tours, tu pouvais pas deviner dans quel pays tu étais. Voilà, t'avais vraiment l'ambiance que voilà, tout le monde est venu pour donner le mieux pour son sujet, et ça, c'était un peu comme une espèce de fairy tale. Ouais, j'ai vraiment énormément aimé l'ambiance là-bas.
Bah, génial. En tout cas, je pense que tu donnes envie aux gens, vu ce que tu décris. S'il y a des
et après, l'équipe était petite, donc Les autres docteurs aussi, tu discutes beaucoup. Voilà, c'est très, c'était comme une famille. Même aujourd'hui, les gens qui sont passés par l'équipe en CDI comme postdoc ou docteur, à l'époque où j'étais, bah, j'ai toujours un petit rapport différent avec ces gens-là. Ouais, je les vois un peu différemment. Voilà.
Ok, ben super. Et donc, alors, donc t'as effectué ta thèse là-bas et donc tu as terminé en 2018 et donc 2018-2019. Tu arrives à l'École Polytechnique pour ton premier post-doctorat.
Exact.
Comment est-ce que tu as trouvé ce post-doc?
C'est un post-doc, donc en collaboration avec Amandine Weber, qui était à l'époque à l'École Polytechnique. Donc, j'avais fait un exposé au CEMAP sur ce que je faisais. Et après cet exposé, avec Amandine, on a discuté un peu et je pense qu'après on s'est appelé. Je pense que déjà on a été amené à interagir avant. Je pense qu'elle organisait ce séminaire et elle me disait, ça me rappelle beaucoup à ce que je fais pour un projet de formation de réseau. Il y a une formation de réseau mycélien, donc mycélium. C'est en fait le réseau d'un champignon,
ce
qui est dans la terre.
Okay.
Tu vois, le champignon, c'est le corps, mais en fait...
Il y a tout ce qui...
Tout ce qui est, ce qui pousse, en fait, c'est le réseau qui pousse à l'intérieur, c'est ça l'organisme, hein. C'est ce que tu vois dehors, c'est rien. Et il disait, ça me rappelle beaucoup cette interaction avec le passé, en fait, je le vois un peu dans ce réseau, parce que aussi, ce réseau se développe, mais en se développant... il envoie la nourriture dans le réseau, donc il y a une espèce de communication, disons non markovienne, on a appris ce que ça veut dire.
Et oui.
et donc on a un peu discuté et on s'est dit, je me souviens qu'il n'y avait pas de financement, c'était un projet avec des biologistes, donc c'était un projet un peu interdisciplinaire duquel elle faisait partie. Elle m'a un peu raconté l'ambiance. Il y avait déjà des gens de Nice qui participaient il m'a dit, mais il y a, à cette époque, il y avait toujours des financements, je sais pas si tu connais Dim Matinov. C'est, en fait, c'était des financements de la région parisienne. Mais à l'époque, donc, il y avait pour toute la région parisienne, il y avait trois financements de un an. Et comme, bien sûr, c'était la fin de toutes les deadlines.
Comme toujours, on change pas une équipe qui gagne.
Voilà, c'est ça. c'était la seule chose qui restait. Elle m'a dit, allez, on va essayer d'envoyer le dossier. Et donc, ensemble, on a défini ce projet. Elle avait un peu plus une vision un peu plus grande que moi à l'époque parce que je connaissais même pas le phénomène en question. J'ai dû un peu rapidement donc on a écrit quelque chose, plusieurs retours. C'était très rapide et j'ai vu que ça va être très différente parce que déjà le réseau se développe, donc c'est pas le même nombre de particules tout le temps. Ça augmente ou ça diminue, etc. Donc déjà mathématiquement, ça va pas être la même famille de modèles, mais ça a l'air quand même très proche en question de cette non-markovianité. Donc il y a quelque chose de commun et c'est toujours comme ça dans les maths. C'est pas au début c'est ton problème et ton une motivation très précise, mais après tu trouves les mêmes patterns partout. C'est la nature. Donc,
Bien sûr.
Et donc c'était hyper intéressant en tout cas et on a postulé ensemble et on l'a eu donc heureusement parce qu'il y avait pas beaucoup de plans B. Il y avait peut-être des plans B, je suis sûre que avec les contacts de
t'aurais su rebondir,
oui,
mais bon, t'as pas eu besoin de te poser la question.
Il y avait même une possibilité d'atterrir au cas où parce que c'était un peu tard, mais je pense que ouais, je me suis assurée un peu que il pourrait y avoir aussi un postdoc ou quelque chose, mais très vaguement, mais bon, ça a très bien marché.
Mais t'as pas eu besoin, donc tant mieux.
Comme d'habitude, une option, mais c'est la bonne équipe qui gagne. Et donc, je suis arrivée à l'École Polytechnique en décembre 2018.
Ok. Et alors, ouais, c'est marrant, on va venir après. Tu l'as finalement jamais quitté, puisque donc ensuite, t'as enchaîné avec un poste de lectrice à Damar. Alors, je crois que c'est assez spécifique. Tu peux nous rappeler brièvement comment ça marche?
Lecteur à Damar, c'est un espèce de super postdoc, je dirais. Mm-hmm. Donc, c'est un financement. C'est, en fait, je dirais, je sais pas comment on appellerait ça en France. En Royaume-Uni, on dirait research fellowship. Je le vois vraiment comme ça. Donc, t'as un financement de 3 ans pour développer ton programme, donc tu dois en fait soumettre un programme un peu élargi, pas seulement un sujet sur lequel tu travailles, mais un peu une vision un peu large de ce que tu voudrais faire, que tu as à faire pendant 3 ans. Et donc, tu as le temps de développer ton programme pendant 3 ans et tu as une petite charge d'enseignement. Mmh. Cette charge d'enseignement, c'est un tiers, donc c'est comme le doctorant, 64 heures. Et donc, tu gardes quand même un pied dans l'enseignement qui est très bien parce que après, ça te permet bien sûr d'approfondir les choses, mais ça te permet aussi pour plus tard... quand tu postules.
Ouais, quand tu candidates, tu peux faire valoir d'une expérience
d'enseignement pendant ton postdoc.
Est-ce que tu avais enseigné pendant ta thèse?
Oui.
J'avais enseigné.
Oui, j'ai enseigné 2 ans, mais pas la première année, parce que mon français, n'était pas top. Il était en cours de développement. Hein, et grâce à mon directeur de thèse, il a beaucoup amélioré. Et donc j'étais, prête à faire, parce que, effectivement, il fallait enseigner en français, il n'y avait pas beaucoup de choix.
Bien sûr.
Et donc, en deuxième et en troisième année de ma thèse, j'ai enseigné.
D'accord. Et donc là, t'as continué pendant...
Et donc, la première année, non, parce que j'avais ce financement sans enseignement et j'ai pas cherché forcément.
Oui, bien sûr.
Et ce qui a été pas mal, parce que comme ça, je pouvais un peu rentrer dans mon sujet de postdoc.
Oui.
Sans avoir de l'enseignement à côté. Mais après, donc, j'ai décroché au cours de la première année ce financement de 3 ans et qui m'a permis complètement de me lâcher, de me dire, voilà, maintenant...
J'ai 3 ans tranquille.
Exact.
Ah oui, c'est...
Parce que 1 an, c'est pas top, vraiment. Non. C'est hyper dur et c'est beaucoup de pression. Et surtout, le changement, c'est hyper dur. Quand tu viens d'un titre... Mais je pense que chaque changement est difficile, peu importe les conditions dans lesquelles tu étais pendant ta thèse. Mais
bien sûr.
T'as passé 3 ans, t'as fait ta thèse, c'est terminé, t'es très content. Et hop, un nouveau défi est lancé. Là, tu vas aller travailler sur un autre sujet, dans un autre labo, avec une nouvelle équipe. Et pour moi, c'était un gros contraste parce que j'arrivais de la Provence, donc d'une petite équipe qui se voyait tous les jours, qui interagissait et qui était un peu dans une boule, comme je disais. Donc, OK, on avait des invités, on avait des séminaires, on interagissait avec la fac de labo de Nice et tout ça. Mais c'était pas un environnement comme, par exemple, à Paris, où il y a des séminaires tous les 2 secondes, où il y a tellement de facs, où les doctorants déjà se connaissent, des facs différentes et tout ça, s'ils travaillent dans le même domaine. Pour nous, c'était pas le cas. Donc, on avait un accès privilégié, on pouvait beaucoup, beaucoup travailler. Mais de l'autre côté, on a été... la première fois que j'ai interagi avec les collègues, c'était les conférences de gens probabilistes. Donc, il y a une grosse conférence de gens probabilistes et statisticiens. Et donc, j'avais fait pendant ma thèse. Et donc, c'est là où j'ai rencontré un peu les doctorants de toute la France dans mon domaine. Et donc, arriver dans un grand laboratoire à l'École Polytechnique, CEMAP, c'est énorme. C'est un contraste, je pense, 20 fois plus grand que ce que j'ai eu dans mon équipe. Même si je faisais partie d'un institut très grand, mais là, c'est un labo. Mmh. Où il y a autant de gens, autant de chercheurs, des post-docs, tu sais même plus qui est où, Et donc, les conditions de travail ont beaucoup changé. Les gens, l'équipe et le sujet. Donc, c'était assez difficile. Et de savoir que t'as que 1 an. Et que tu dois quand même pouvoir soit décrocher un financement ou avoir un poste qui, les chances sont vraiment minimales d'avoir un poste après la thèse et tout de suite. Donc, c'est quand même beaucoup de stress à la fois parce qu'il y a beaucoup d'inconnus dans tous les sens. Donc, la vie, la recherche, le nouveau sujet, le nouveau labo. Voilà. Donc, j'étais assez contente de, pendant cette première année, pouvoir savoir que, voilà, j'ai décroché un financement de 3 ans et de me dire, ah là, je peux... complètement me lâcher, faire
mal. J'imagine, t'abordes pas ta recherche de la même façon du tout. Tu peux te lancer sur des choses peut-être un peu plus,
Oui. Ouais, je pense qu'aussi, si c'est contrainte à une année, t'essaies de la rentabiliser aussi.
Exactement.
Mais après, pour moi, c'était dur parce que je changeais de sujet. Donc, je rentrais dans quelque chose de nouveau. Donc, j'avais juste besoin d'une année, pour poser tout ce qu'il faut. Pour moi c'était vraiment indispensable de continuer si je voulais faire quelque chose d'intéressant dans ce sujet. Sinon, effectivement, tu fais 1 an et après tu changes, tu vas quelque part d'autre.
Ouais,
c'est pas idéal, tu changes encore. Après, il faut travailler sur 2 sujets à la fois parce que c'est un peu dur, je trouve, la manière dont on est évalué, parce qu'on voit notre dossier, on dit, ah oui, 2 postdocs d'un an, mais aucune publication sur ça. Et donc, en fait, c'est plutôt le système qui nous pousse d'aborder la recherche différemment. Sinon, je pense que tout le monde a envie d'aborder la recherche de la même façon, de se lancer, de travailler.
Oui, c'est des calculs, hein. C'est, tu fais des calculs que t'aimerais ne pas avoir à faire quand tu cherches des postes.
Ouais.
Effectivement. Ok, et donc 2021, chargée de recherche, CNRS.
Ouais.
Et donc toujours à l'école polytechnique. Alors, est-ce que t'as candidaté au fur et à mesure des années ou...
Oui, j'ai candidaté. J'ai candidaté un peu. J'ai candidaté même la première année, je pense, 4 mois après ma thèse, j'avais un dossier prêt. J'ai postulé justement à l'école polytechnique et pour quelques facs parisiens pour mettre des confs. Et j'ai même décroché quelques auditions. J'étais hyper contente. Mais c'était dur, je me souviens. C'était pas adapté, je pense, de candidater tout de suite. Je le vois maintenant avec le recul. Et après, j'ai candidaté un peu moins. Quand j'ai décroché le financement, je me suis dit quand même, j'ai 3 ans.
Ouais.
J'ai vraiment envie d'aborder la recherche comme il faut avec,
ouais.
Voilà, vraiment tranquillement et de m'amuser en le faisant. Et pas de juste courir à gauche et à droite. Donc, deuxième année, j'ai pas beaucoup candidaté. J'avais envoyé un dossier CNRS qui a pas allé loin cette année-là. Et après, j'ai renvoyé. Donc, ça s'est beaucoup cristallisé en moi. J'ai vu que je voulais vraiment décrocher le CNRS. Donc,
ah, d'accord. Tu voulais vraiment une charge de chercheuse et pas d'enseignante chercheuse.
Oui, oui, oui.
Pourquoi?
J'ai bien aimé tous mes sujets que j'avais en ce moment. J'avais envie de les développer et j'avais envie d'être libre de ne pas enseigner,
oui,
d'être les deux à la fois. Et j'ai vu que voilà, une possibilité à faire comme ça, c'était le CNRS, ça me paraissait idéal. Et aussi, j'ai vu dans mon environnement justement ma collaboratrice de postdoc qui a été chercheuse au CNRS à l'époque, qui avait une charge d'enseignement aussi à côté. Donc j'ai vu qu'il est possible de faire les deux, mais qu'on est un peu plus libre dans,
oui,
la recherche.
Puisque c'est pas attaché à ton poste, t'as,
exact,
plus de liberté sur ce point.
Et on a un peu moins d'enseignement, et c'est pas nous qui vont diriger la politique d'enseignement, mais quand même on va pouvoir enseigner des choses intéressantes, des choses dans lesquelles on est spécialisé. Et ça, ça m'a bien rassurée que je pourrais toujours garder un pied dans l'enseignement, mais que j'aurais une contrôle total sur mon temps pour la recherche. Et c'est là, je pense, où je me suis dit, quand la première fois que ça va pas passer, je me suis dit, faudrait que je travaille un peu plus et un peu plus dur pour que ça arrive l'année d'après ou l'année d'après. Mais quand même, bon, on va pas peut-être beaucoup parler de tout ça. C'est toujours une période hyper compliquée. Les candidatures, c'est dur. T'es toujours évalué. Tu cours partout. Tu fais des séminaires. Tu fais ton dossier. C'est pas agréable pour le...
C'est pas les périodes les plus drôles, ça,
voilà,
c'est sûr.
Mais bon, j'avais un peu des contraintes personnelles aussi, j'avais ciblé Paris, j'avais ciblé SNL, donc j'ai pas envoyé énormément de dossiers.
D'accord.
J'avais quand même quelques auditions à faire, donc j'en avais pas mal, mais quand j'envoyais le dossier, bah, j'étais souvent auditionnée, donc il fallait quand même que je prépare tout ça. Donc j'ai perdu beaucoup de temps sur ça aussi, même si à la fin j'étais pas à mettre des comptes. Et je trouve que c'était récent, donc je me souviens, c'était pas facile. Et surtout, il y a la Covid qui est tombée, 2021, donc 2020, c'était l'année de Covid. Cette année, j'ai peu candidaté, heureusement, mais j'ai quand même, voilà, c'était dur de ne pas savoir ce qui va se passer, ne pas savoir si j'aurai un poste ou pas. Covid, c'est un peu bizarre, en tout cas.
Ouais, ouais, ouais. Une période un peu particulière. Ok, très bien. Et ben, heureusement, tout s'est bien passé, ça a marché. Tu as eu ton poste de chargée de recherche. Et ce qui nous permet tranquillement de conclure cette première partie de retour sur ton parcours et de nous concentrer sur ton métier de chercheuse actuelle, même si, évidemment, tu étais chercheuse depuis que tu as commencé en thèse. Alors, tes thématiques de recherche semblent avoir évolué actuellement. Qu'est-ce que tu regardes?
Actuellement, je pense que mon projet pour après et ce que j'avais un peu découvert pendant ma thèse mais que je voulais beaucoup approfondir, c'était cette non-malcolmianité. Et ça m'a un peu suivi, donc je me suis dit j'aimerais un peu plus c'est la singularité et la non-malcolmianité qui m'a voilà intriguée, en tout cas. Et donc j'ai dirigé ma recherche vers ces genres de questions, soit ensemble soit séparément. mais toujours un peu guidé par les problèmes en biologie.
D'accord.
Donc j'ai les phénomènes qui un peu donc toujours m'est intrigué, c'était des phénomènes d'auto-organisation. Et donc il y avait la chimie, le chimiotactisme, le développement des os, et après ces particules en interaction, une fois transcrites dans les maths, ouvrent énormément de questions en soi. Donc en ce moment, je travaille pas mal sur les particules en interaction singulière ou et non macroniennes, mais cette fois-ci, j'ajoute plein de choses aussi, des naissances, des morts, des voilà, des problèmes. Donc ça dépend de phénomènes en soi et ça a beaucoup évolué. Il y a plein de projets à la fois, mais disons qu'un point commun, c'est une motivation biologique et des objets aléatoires ou voilà, on essaye de décider qu'est-ce qui va se passer en fonction de notre passé ou l'instant actuel, mais il y a toujours quelque chose de singulier qui se passe parce qu'on doit soit vite se réorganiser, donc on doit prendre une décision rapide, donc ça c'est une singularité sûrement, on doit aller quelque part et y rester, ça c'est une singularité aussi, voilà. Donc, mais c'est toujours motivé un peu par la vraie vie.
Ok, très bien, super. Eh ben, ça brosse très bien, ça vient conclure parfaitement le portrait des choses qui t'intéressent. On en a une très belle idée, je te remercie. Et donc, à nouveau, si on revient à des choses pratico-pratiques, pour quelqu'un qui n'a aucune idée de ce qu'est notre métier, est-ce que tu peux expliquer à quoi ressemblent tes journées ?
Ah, ça c'est toujours la question difficile parce qu'aucune journée se rassemble en fait. Et c'est en fait ça qui est le point, peut-être le fil rouge de notre métier, que c'est tellement, il y a tellement de choses. Donc après, on peut, ça dépend de notre sensibilité. Si on est une personne qui aime bien la routine et on va s'organiser, c'est nous qui sommes les maîtres de nos journées en fait. Et moi, comme je suis une personne qui aime tout faire et dire oui à toutes les choses, bah voilà, je suis aujourd'hui avec toi et je sais pas, demain j'ai le séminaire et après je sais pas quoi voilà. Donc tous les jours il y a quelque chose d'autre, mais disons que ma journée, bah déjà je passe pas mal de temps dans le transport pour arriver à l'école polytechnique, et ensuite j'ai soit des réunions de travail avec des collègues ou les collaborateurs, par exemple j'ai des étudiants en thèse ou en postdoc qui vont venir me voir. J'ai bien sûr un déjeuner avec les collègues, et après j'ai soit un séminaire, soit peut-être quelque chose de ma charge d'enseignement, soit une autre réunion de travail, soit peut-être une tâche administrative, et je m'occupe de l'organisation d'une conférence, donc j'ai une visio avec des comités, etc. Mais c'est vraiment, je pourrais pas dire que il y a une journée typique comme la particule typique, donc ça n'a pas lieu. Il y a beaucoup d'aléas dans ma journée typique, c'est-à-dire il y a voilà, donc ça dépend vraiment comment qu'est-ce qui tombe ce jour-là, parce que je m'implique dans plein de choses à la fois, ce que j'aime beaucoup. Je travaille avec des collègues à Paris, donc il peut se passer que ma journée typique est de passer une journée peut-être à Jussieu ou je sais pas à IHP, moi situé à André Poincaré, pour travailler avec un collègue qui est sur Paris, voilà. Donc ça, ou un collègue qui passe au passage à Paris, et ça nous convient de se retrouver là-bas, voilà. Donc il y a pas de journée typique, mais il y a plein de choses. Ça dépend de la période, mais c'est souvent ces genres de tâches qui m'occupent.
Ok, et donc parmi toutes ces tâches, quelles sont celles où tu prends le plus de plaisir ?
C'est comme mes enfants, hein, je veux pas dire, tu sais, j'ai pas un enfant préféré. Non, mais je pense que toutes les tâches pour moi sont une manière à, en tout cas moi je vois comme ça, quand c'est une manière à vouloir faire l'autre tâche, c'est-à-dire d'avoir envie de retourner. Si ce matin j'ai une réunion plutôt administrative, plutôt organisationnelle, ou un séminaire, c'est un peu, ça coupe un peu ma recherche, mais ça me donne envie à vite retourner à ma réunion de recherche, etc. Et la même chose, la recherche peut-être m'a épuisée aujourd'hui, et donc j'ai envie d'être productive et de dire attends, j'ai fait quelque chose, donc voilà, j'ai quelque chose un peu plus administratif à faire, ou j'ai un peu d'enseignement, ou je dois préparer mon enseignement, etc. Donc Bien sûr que c'est toujours la recherche où je prends le plus de plaisir, mais je...
Mais les autres tâches ont leur utilité aussi.
Oui, et je trouve vraiment, j'aime bien m'engager dans des choses différentes. Ça me donne en tout cas envie de faire plus, de retourner. C'est une espèce, pour moi, c'est une espèce d'automotivation, de aller couper un peu quelque chose pour y revenir, un peu plus frais, avec la tête un peu
reposée. Ok. Et est-ce qu'il y a quand même alors des choses que t'aimes pas trop ou vraiment tout te plaît?
Qu'est-ce que j'aime pas trop? Bon, j'aime pas trop remplir les fiches d'émission et tout ça, ce que j'ai fait pour toi ce matin. Et de devoir, pour la énième fois, donner ma date de naissance ou je sais pas quoi. Je vois bien qu'il faut le faire, mais voilà. Donc c'est, disons que c'est des genres de choses que...
C'est pas les tâches que tu préfères.
Que c'est pas les tâches que je préfère.
Je peux comprendre.
Mais je, voilà.
C'est pas forcément le plus intéressant, effectivement.
Mais après le reste, c'est pas...
Ok, super. Et alors, donc, j'aime bien que l'auditrice puisse visualiser un petit peu le travail de chercheur. Dans ton cas, est-ce que tu travailles au papier, à l'ordinateur ou au tableau la plupart du temps? Comment tu travailles?
C'est souvent le tableau et papier, que c'est la plupart du temps, je dirais. Et ordinateur, c'est oui, juste pour la lecture et genre, pour ouvrir un papier à côté. Donc les écrans servent à ça pour ne pas imprimer 10 000 papiers. Donc ouvrir, disons qu'une session de travail, c'est ouvrir quelques papiers sur l'ordi, être au tableau, écrire sur le papier.
Même quand tu es seul, tu travailles au tableau?
Oui, quand je suis seul, je suis souvent à écrire un calcul au tableau, à le regarder, après à le transcrire. Avant, j'étais plutôt papier. Mais aujourd'hui, je suis plutôt interaction papier-tableau. Donc, je fais d'abord, je visualise en grand quelques lignes, je les teste plusieurs fois, après je reviens vers le cahier, après c'est le cahier. Et j'essaye aussi un peu d'être un peu plus productive et plus rapide, donc parfois c'est même le tech direct.
Waouh, wow, ça j'arrive pas.
J'essaye donc d'ouvrir le tech et de noter quelque chose de crucial dans le tech aussi. Si je vois qu'il y a une bonne conclusion ou qu'il y a un bon schéma ou qu'il y a un calcul intéressant, j'essaye. Mais j'ai vu plus en plus et je suis un peu étonnée. C'est vraiment super, bravo à eux, les doctorants aujourd'hui. Ils écrivent plein de choses dans le tech. Mais même les étudiants d'M2, je vois qu'ils prennent des notes dans le tech direct, de coup. Donc on évolue dans ce métier, donc je pense, et c'est très bien comme ça.
Ok, super. Et est-ce que tu travailles également beaucoup en collaboration ou
Oui, je travaille beaucoup en collaboration, et c'est ce que j'adore. Je pense que la maths, c'est les rencontres. Les rencontres avec les gens, le temps qu'on passe ensemble, et comme on voit jamais le temps passer, on passe beaucoup de temps entre nous à discuter de nos problèmes. Et ouais, pour moi, l'idéal, c'est travailler avec une ou deux personnes au tableau, discuter, chacun attaque le problème de sa manière, échanger les idées. C'est vraiment où on voit vraiment pas le temps passer.
Et comment est-ce que tu les noues, ces collaborations? Comment est-ce qu'elles naissent en général?
Voilà, c'est les rencontres, je pense. Les rencontres. Par exemple, j'étais un thésard à l'époque où un collègue a été postdoc, et après on s'est retrouvé sur le plateau et on a décidé de discuter et on a continué et aujourd'hui on travaille ensemble. Donc c'est des rencontres qui sont avant et qui ont abouti à quelque chose après. Après, c'est aussi souvent comme ça se passait pour le postdoc. Après un séminaire, on commence un peu plus à discuter. Parfois c'est un des contacts directs, parfois, c'est juste, on a envie de travailler avec quelqu'un. Parfois, c'est un problème qui depuis longtemps, nous intéresse et qu'on attaque d'angles différents. Et un jour, on le présente à un collègue et voilà, on commence à discuter, ça lui intrigue aussi. Et du coup, en échangeant, à un moment, on se dit, voilà, on y est, on peut commencer à travailler ensemble. Donc, je trouve que c'est spontané, et j'ai aussi des collaborations à l'étranger aussi. Je trouve que c'est pareil. On va quelque part, on donne un séminaire et après on passe quelques jours dans le labo et les gens viennent, ils discutent et c'est tout ça un peu les rencontres qui font que qu'on découvre les nouvelles questions des maths et que nos questions à nous sont vues sur notre lumière.
Mais oui, on l'a vu par exemple avec ton postdoc où oui. C'est quelqu'un qui a dit ah, ça me fait penser à oui. tel problème.
Oui,
c'est souvent comme ça.
Oui, oui, c'était aussi pareil. Je fais un séminaire à Oxford et après je suis restée un peu quelques jours et à l'époque un collègue était à la fin de thèse là-bas et on a discuté beaucoup et on est resté en contact, on a échangé. J'ai un moment on dit bah tiens on a un problème et on est resté en contact et après on a même eu un financement, on a travaillé ensemble et on continue même aujourd'hui. Donc vraiment c'est voilà, c'est des rencontres et parfois c'est impossible aussi de ma part. Je sais que si je aille poser une question à un collègue peut-être voilà il y aura une petite discussion un peu poussée et voilà. Et parfois c'est juste envie de travailler avec quelqu'un et de si vous fermez deux trois mathématiciens dans le même, deux chercheurs peu importe de quel domaine dans la même pièce quelques heures je pense qu'ils trouveront
ça c'est sûr voilà. Donc, ok et donc c'est marrant t'as mentionné tes voyages et donc moi pour préparer l'émission j'ai regardé ton CV attentivement et j'ai vu que t'as beaucoup voyagé pour assister ou pour donner des conférences, donner des exposés, etc. Donc, si je te demandais quel est l'endroit à l'étranger où tu as préféré faire des maths, qu'est-ce qui te vient spontanément Est-ce qu'il y en a un qui te vient ou est-ce qu'il y en a plusieurs?
Ah oui, bah si rapidement, je pense que j'ai vraiment beaucoup aimé le passage à Oxford et Cambridge avec travailler avec mon collègue qui était à une époque à un endroit et après à l'autre. C'était un peu la même ambiance de bulle qui me plaisait de recherche. Donc, ces deux endroits, j'ai bien aimé. Je pense que j'étais bien accueillie un peu partout. J'étais au Chili, c'était super, super intéressant de travailler là-bas, de découvrir un peu la fac et les équipes. Au Japon, c'était hyper intéressant aussi. Comme j'aime bien l'ambiance un peu bulle et pas juste aller au travail, sortir de métro et rentrer dans le bureau, je pense que j'ai bien aimé les villes universitaires. Voilà. Ça j'ai bien aimé.
Ouais, t'es sensible à l'atmosphère en fait d'un endroit.
Exact.
J'ai l'impression.
Oui. Ouais. C'est pour ça en fait j'aime bien le plateau de Saclay. C'est difficile d'y aller, mais une fois qu'on y est, il y a aussi cette ambiance. Il y a plein de labos de maths déjà sur le plateau. À l'IX, à Centrale, à Orsay, à la fac d'Orsay. Donc, il y a plein d'endroits pour faire des maths, mais il y a une ambiance de recherche en soi. Quand on arrive à l'école polytechnique, on est aussi dans une boule un peu, oui, le trajet est difficile, mais une fois qu'on y est, c'est
ça vaut le coup.
Oui, ouais, j'aime bien.
Ok, écoute, super. Merci beaucoup d'avoir décrit le métier de chercheuse et ce qui te plaît dedans. On va tranquillement passer dans la dernière partie de l'émission et donc on va aborder ta carte blanche. Donc, de quoi as-tu envie de nous parler aujourd'hui?
Ah, oui, donc je voulais un peu discuter avec toi des expériences des chercheurs et chercheuses qui venaient de l'international et qui passaient par la France.
Oui.
Soit en temps déterminé ou comme moi en temps indéterminé et pourquoi ils sont là et comment ils sont restés donc j'aimerais bien j'ai vu que CNRS déjà affiche sur leur site que 30% des candidats dans tous les matières confondues viennent de l'étranger. J'ai un peu fait une recherche sur les candidats retenus en maths récemment, donc les dernières 5 ans. Et effectivement, autour de 35% des gens recrutés venaient d'étrangers. Ça veut dire qu'un maths, ça postule même plus que 30%, ce qui est étonnant. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que c'est des chiffres.
Oui, ça veut dire qu'on reste attractif quand même.
Exact, qu'on reste au moins au niveau de métier recherche pour moi. Je voulais un peu peut-être discuter de ces aspects-là et comment en fait quel est le parcours typique de cette personne-là et comment Et comme j'évoluais dans un milieu comme ça, on pourrait peut-être discuter de quelques témoignages.
Ouais.
Je sais pas, par exemple, j'étais donné quelques chiffres pour le CNRS qui est vraiment la recherche, et donc on reste attractif, mais je pense parce que si des conditions qu'on propose d'être complètement libre.
Oui. Et je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a le fait que déjà il y a pas tant de pays que ça où on peut avoir un poste permanent aussitôt dans la carrière.
Exact.
Et donc naturellement on est attractif. Peut-être moins, ça se voit moins sur les postes de maître et maîtresse de conférence. Pourquoi ? Parce qu'il faut absolument parler français pour enseigner en français. Donc je pense que ça ferme la porte à certains chercheurs étrangers qui ne peuvent pas
postuler. Et oui, j'ai une anecdote par rapport à ça aussi. Mais... Oui, bah oui, effectivement, bah moi quand j'ai commencé à préparer mes dossiers, mettre des confs, je les ai naturellement, on voulait les écrire en anglais. Et après, j'ai eu un conseil de quelqu'un très bienveillante autour de moi, qui était plus expérimentée, qui m'a dit que je serais pénalisée. Mais ça m'a vraiment, ça m'a hyper marqué. Je me suis dit, quand je suis arrivée, je savais pas que je resterais en France. Et donc,
C'est une question que je voulais te poser. Ouais. Je me demandais à quel moment ça s'est cristallisé dans ton parcours de te dire, bah, je vais rester.
Ah, je pense que c'était pas que le parcours, mais tu veux dire le parcours de recherche et enseignement.
Oui, ou... oui, oui. Ouais.
Et bah, pour moi, c'est le total, la vie totale qui a un peu influencé. Donc, le parcours de recherche et enseignement, je pense que c'était plutôt, déjà, pendant le postdoc, parce que comme j'ai fait le choix de rester en France. Mais je pense que, en soi, je savais pas quand je suis arrivée que je resterais. Je pensais que je passerais un an après ma thèse. Voilà, quand je commençais ma thèse, je partirais sûrement. Je parle pas français, etc. Je pense que c'est tout en soi, l'intégration, les amis, les liens, les rapports avec les villes. Comme je t'ai dit, je suis une personne vraiment qui est beaucoup attirée par l'ambiance et par la vie en soi, autour de soi. Et après aussi les rencontres, donc j'ai rencontré mon compagnon ici en France, et donc voilà, les projets perso se sont alignés avec les projets professionnels. Et d'accord. Donc c'est...
Et est-ce que quand même tu as candidaté à l'étranger ou pas du
non,
tout?
Non, pas du
ah
tout.
Ah oui, donc jamais. Donc c'était clair.
Ah non,
tu
mais moi j'ai
resté
été,
en France.
Oui, jamais. Et donc voilà, quand je préparais mes dossiers, enfin, vivement conseillé de les écrire en français, ce qui m'a hyper étonnée, je me suis dit mais c'est le contenu qui est évalué par la langue dans laquelle c'est écrit, et après ça m'a pris beaucoup de temps aussi, donc je trouve que c'est quand même dur quand tu postules pour effectivement pour les mettre des confs où tu dis il y a moins d'étrangers.
Mais oui, fatalement, parce que la langue c'est discriminant.
Je suis d'accord, mais je pense que il y avait une vague, je sais pas si tu as remarqué, des chercheurs italiens qui sont arrivés en France parce qu'il y avait des postes là-bas qui ont été un peu gelés dans une époque, et donc ils se sont très vite reconvertis. Je pense que ils ont appris rapidement,
oui.
Ils enseignaient, maintenant ils retournent pas mal parce que les portes depuis la situation a changé, mais il y a ça, il y a aussi pas mal des gens d'origine chinoise qui sont là, qui ont appris le français rapidement aussi. Je trouve qu'il faut quand même donner une chance et
bien
se
sûr.
Dire, si on voit l'envie dans la personne, pourquoi pas. Et une autre anecdote que j'ai eue des collègues pendant qu'on candidatait, c'est que, voilà, moi j'ai transcrit mes dossiers en français, je faisais mes auditions en français, etc. Et ça me posait pas de problème. Bon, l'écriture et tout ça, oui, mais ça m'a pris un peu plus de temps. Je voyais que j'avais quand même un retard par rapport à mes autres collègues. Et disons par rapport à la concurrence aussi. Donc je devais travailler un peu plus que les autres. Mais bon, j'ai fait un choix aussi d'aller dans un autre pays, pas le mien. Voilà. et par contre, j'avais aussi une anecdote de quelqu'un qui allait à une audition, hein, qui la faisait en anglais et qui a été vraiment mis en difficulté pendant l'audition. Ce que je trouve aussi pas hyper bien, parce qu'on pourrait se dire, on n'a pas envie d'auditionner ce genre de candidats, on les invite pas, parce que comme tu dis, ils n'auront pas le poste. Mais si on a pris la peine d'auditionner quelqu'un, hein, c'est pas pourquoi lui mettre en difficulté, lui poser une question, hein, comment vous allez procéder avec votre français, tu vois. Mais après, il y a je pense des témoignages vraiment différents que j'ai recueillis pendant les années, et il y a des gens qui ont toujours un peu même la difficulté de tu vois, prendre la parole, de se dire, oh non, mais moi, je veux pas faire un, je veux faire mon exposé. Même si j'enseigne en français, je ferai mon exposé en anglais, et ce genre de choses, tu vois. Et je trouve que c'est une atmosphère aussi un peu qui s'est créée autour de ça. À la fin, c'est aussi la capacité de s'adapter et de vouloir s'adapter qui compte.
Exactement. C'est marrant que tu dis ça. J'allais justement dire que si je puis nuancer un peu, j'ai l'impression, pour avoir vécu quelques comités de l'intérieur, que au-delà du fait que il faut que la personne sache parler français, etc. Des fois, il me semble que ça passe si on voit que la personne elle a quelques bases, puis qu'on voit une volonté d'apprendre. J'ai l'impression que c'est vraiment ça qui importe, que les gens veulent voir que la personne, ok, elle a envie d'apprendre le français, donc ce sera pas un problème.
Oui, et tout à fait, c'était le conseil que qui m'a été donné. On m'a donné cette conseil de transcrire le dossier juste pour montrer.
Exactement.
Et voilà, de l'envie. Mais bon, moi, il n'y avait pas d'envie, je parlais
Oui, tu parlais parfaitement
français.
Mais
effectivement, je trouvais que mon dossier sera meilleur en anglais, parce que les papiers sont écrits, genre, c'était une autocritique, tu vois.
Oui,
mais
comprends.
Après, avec les yeux de quelqu'un d'autre, c'était plutôt, non, il sert aussi si bien en français, et un peu de confiance. Et c'est ça ce que j'avais envie de dire, parce que, en parlant avec des collègues qui se sont plaints plutôt de cette situation, il faut se dire il faut avoir un peu plus de confiance en soi-même, en se disant, oui, peut-être les langues, c'est pas quelque chose, que tout le monde peut rapidement faire, mais juste montrer, sortir un peu de sa zone de confort et se dire allez bah je fonce, j'essaye, ok, oui je suis un peu ridicule, oui j'ai un accent, oui, mais une fois que c'est fait et c'est un peu ça montre qu'il y a un envie, et s'il y a pas d'envie, je suis d'accord que
oui, ça va être compliqué, mais oui, en fait effectivement c'est bien que tu pointes ça, de pas tant focaliser sur le niveau en tant que tel, mais sur le moteur qu'il y a derrière l'envie d'apprendre la langue, quoi. Et je pense que c'est effectivement ça qui est plutôt évalué. Évalué, c'est pas le bon terme, mais c'est ce à quoi on fait attention.
Oui.
Donc, toi, en fait, c'est marrant parce que du coup, c'est ça qui est génial, c'est que toi, tu apportes la perspective de l'autre point de vue, parce que toi, t'étais dans la position de la personne, donc... étrangère qui devait venir faire ses preuves. Donc quelque part avec ton expérience, tu donnes des conseils aux gens qui pourraient être à ta place.
Exact.
En nuançant l'importance qu'on doit donner à ça. Et
oui, parce que c'est quelque chose qu'on, tu vois, c'est quand même une critique que tu donnes à quelqu'un, et il faut quand même savoir vivre une critique. Et effectivement, si quelqu'un, il y a un an qu'il est arrivé et que il a postulé et qu'il a un bon niveau, etc., il se demande, mais attends, hein, qu'est-ce qu'on veut de moi? Encore.
Ouais.
Et ça, j'ai bien remarqué par les postdocs qui passent chez nous en France, que ils restent, mais ils restent à la fin de leur contrat, et après ils s'en vont.
Tu penses qu'on a une déperdition, qu'on perd certaines personnes à cause de cette
On n'arrive pas à leur donner envie, nous aussi. Parce qu'il faut pas que, il faut aussi que l'envie vienne de l'ambiance.
Je suis tout à fait d'accord
avec
toi.
Et si nous aussi, on n'arrive pas à leur donner envie d'apprendre et de rester, parce que c'est la seule barrière, le reste est nickel.
Ouais.
T'as des dossiers exceptionnels, comme tu dis.
Ouais.
Et donc, si nous aussi, on fait pas notre partie de truc, alors, on peut pas s'attendre que quelqu'un va faire 100% d'effort. Moi, l'envie m'a été donnée par l'ambiance, par le fait que, j'ai été énormément motivée par des gens autour de moi, par mes collaborateurs, les chefs d'équipe, mon directeur de temps, tout le monde voulait que je réussisse. Et donc moi, de ma part, je me suis dit, je vais tout donner, donc je vais aussi faire mon effort quant à la langue. Mais il faut que l'ambiance et nous, comme les chercheurs à côté, on donne envie, on donne la chance à la personne.
Bien sûr. Bien sûr.
Et ne pas, parce que oui, il y a toujours des blagues, il y a toujours des choses, et pas tout le monde peut
encaisser.
Oui, moi aussi, j'aime pas que autant que j'essaye de rester calme et tout, j'aime pas quand quelqu'un se moque de moi et mon accent. C'est pas.
Parce que voilà. Ça t'arrive.
Oui, ça m'arrive énormément dans notre milieu. Ouais, ouais. Oui.
Incroyable.
Ah oui. Okay. Bon, les étudiants, c'est vraiment souvent. Après, je pense il y a des collègues, mais c'est des blagues. Je trouve que c'est pas, mais qui oui, qui aiment bien imiter quelques mots que je dis, etc. Et bon, parfois je trouve un peu déplacé. Parfois je trouve déjà c'est dépassé en soi, mais bon, parfois je trouve que c'est juste voilà de jeu et de petites blagues. Donc je prête pas trop attention, mais. C'est vrai que voilà, on est un peu différent en tant qu'étranger, et du coup, c'est pas la peine qu'on nous rappelle ça tous les jours, quoi. Mmh. Oui, donc il faut que nous, de notre côté, on donne avis aux autres. Donc voilà, cette petite perte, je trouve que où les gens se disent bon, allez, je vais postuler au Royaume-Uni parce que c'est 10 fois plus facile, hein, parce que il y a pas de la difficulté de la langue.
Absolument.
Quand même, au CNRS, on voit qu'on arrive à attirer et que les gens viennent.
Ouais, il y a une envie. Donc, à nous, donc, aux deux parties, oui. De faire en sorte oui. De se rencontrer, et avec ton témoignage qui finalement est quelque part des deux côtés.
Oui, bah oui,
tu l'as vécu de l'intérieur et maintenant t'es aussi de l'autre côté. Oui. C'est, t'apportes un éclairage très intéressant sur cette question. Donc, merci beaucoup. C'était très intéressant d'avoir vraiment ton point de vue, ta perspective qui est particulière sur cette question. Donc, je te remercie pour cette carte blanche. Ok, on va tranquillement terminer l'émission avec, comme d'habitude, les recommandations, un petit peu de nourriture culturelle pour les auditeurs et auditrices de l'émission. Alors, qu'est-ce que tu as envie de recommander ?
Alors, je voudrais recommander un livre, donc ça sort un peu de classiques qui ont été recommandés, peut-être les podcasts, les séries. C'est un livre que, quand j'étais au collège, on nous donne pas tout à lire, mais ça fait partie de notre programme de littérature en Serbie, et qu'on lit les morceaux de ce bouquin, qui s'appelle... Je le dirai en anglais, c'est le titre original parce que le livre a été écrit en anglais. Il s'appelle From Immigrant to Inventor de Mihailo Pupin, qui a été un physicien et mathématicien serbe qui a terminé aux États-Unis dans les années fin des années 1800 et il a une grande carrière à la Columbia University. Et donc il raconte l'histoire de sa vie depuis qu'il est un garçon. Et donc, il y a tout un contexte historique parce qu'il a grandi dans les années 1800, dans l'Empire autrichien, je crois, parce que à l'époque, la Serbie était, cette partie-là est sous l'Empire autrichien. Et donc, il y a un contexte historique, il grandit dans une petite ville et tout ça, un village, et il est très doué, et après, il raconte un peu son histoire et son chemin et comment, ça lui a amené à un jour embarquer, déjà aller aux États-Unis, au Royaume-Uni, je pense à Oxford ou à Cambridge, je me souviens plus, à trouver un grand chercheur en physique à l'époque, et après d'embarquer un bateau avec 5 centimes dans sa poche,
wow.
Et arriver aux États-Unis pour faire la rêve américaine à l'époque, et de à la fin de terminer à Columbia en tant qu'un grand professeur, et aujourd'hui il y a toujours, je pense, un laboratoire qui porte son nom. Les Pupin Laboratories. Et donc, j'ai lu des morceaux de ce bouquin quand j'étais jeune et ça m'a, voilà, ça a un peu resté derrière et ça m'a, il y a tout un contexte, toute une histoire, il y a pas mal aussi de ce qu'il a inventé, etc. Donc, il y a aussi la recherche, mais aussi tout le chemin dans un contexte historique, donc, très intéressant. Et après, il y a toute sa deuxième moitié de vie où il devient très influencé, une personne qui a beaucoup d'influence et qui aussi s'engage politiquement et qui, à la fin, reçoit pour son autobiographie un prix de Pulitzer
wow.
En 1924, je pense, pour ce bouquin-là. Et donc, voilà, je trouve que c'est intéressant de découvrir cette personne et son parcours. Et un peu la rêve américaine aussi, mais dans une autre époque, pas celle ouais. d'aujourd'hui. Et aussi, par exemple, moi, j'ai à la fin eu le plaisir de lire ce bouquin quand je voyageais aux États-Unis et j'allais à l'université de Columbia. Donc, je me suis dit, voilà, c'est parfait dans l'avion de retourner vers ce bouquin parce que je lisais que de morceaux et de le vivre en tant que quelqu'un qui traverse l'océan.
Excellent.
Et arrive et va à Columbia. Et donc, j'ai adoré à faire ça. pendant mon passage aux États-Unis pour la recherche. Et donc voilà, je recommande vivement ce bouquin.
Bah super, merci beaucoup. Donc comme d'habitude, je mettrai les références dans la description de l'épisode. Alors moi, aujourd'hui, je vous recommande un podcast. Donc c'est le podcast de Cédric Villani sur France Culture qui s'appelle « Les contes des mille et une sciences ». Donc en fait, il s'agit d'une saison de 4 épisodes, d'une durée d'environ 15 minutes chacun. Le thème pour cette première saison, c'est « Mettre le monde en équation ». Et donc, on s'intéresse plus précisément à l'invention des équations différentielles. Donc, la série, elle couvre un large spectre historique. Ça va du XVIIe siècle jusqu'à nos jours. Donc, ça évoque l'émergence de ce domaine avec les brillants esprits de l'époque, Newton, Leibniz, Bernoulli, mais également des applications plus contemporaines. Il parle par exemple des liens avec les ordinateurs, l'informatique, les conséquences avec les premiers astronautes qu'on a envoyés sur la Lune, etc., etc. Et donc, sur la forme, le titre, il est pas trompeur du tout, parce que le parti pris, c'est vraiment que Cédric Villani raconte ça comme un conte. Donc, c'est principalement lui qui va narrer les différentes époques, avec de temps en temps des acteurs qui interviennent et donc qui campent des scientifiques le temps de quelques phrases. Et donc, j'ai trouvé ça vraiment extrêmement agréable, intéressant à écouter. En plus, c'est connecté à mon domaine de recherche, donc ça me parlait vraiment. Pour les non-spécialistes, je pense qu'il y a probablement quelques moments où vous comprendrez pas tout. Mais d'abord, c'est très ponctuel. Et puis, c'est un parti pris. C'est le parti pris de Cédric qui dit qu'il vous invite à ces moments-là un peu à lâcher prise et à vous laisser bercer par la musique des mots. Donc, en tout cas, vous en ressortirez forcément en ayant appris quelque chose, que ce soit sur le plan historique, un peu comme ce que tu disais avec l'autobiographie que tu nous conseillais, ou alors sur des notions mathématiques qui prend également le temps d'expliquer. Donc voilà, n'hésitez pas, je rappelle le nom, ça s'appelle « Les contes des mille et une sciences » par Cédric Villani, et c'est une production France Culture. Et comme d'habitude, je mettrai les références dans la description de l'épisode.
Hello, c'est la Nathalie du montage. Juste un message pour vous dire que, au moment où on était en train d'enregistrer l'épisode avec Mélissa, effectivement, le podcast de Cédric Villani ne contenait qu'une seule saison. Entre-temps, il est depuis sorti une deuxième saison, mais qui est accessible au même lien que je mettrai dans le descriptif. Allez, je vous laisse reprendre l'écoute.
Donc voilà, c'est le moment de conclure. On conclut un peu toujours l'émission de la même façon. Donc la question que j'aime bien poser aux invités pour terminer ce périple qu'on vient de faire avec eux sur leur vie, qu'est-ce que tu souhaites accomplir?
Alors, je pense que c'est peut-être pas accomplir, mais c'est en permanence, je souhaite toujours avoir accomplir, de pouvoir avoir l'envie de faire les maths de même manière que je les ai aujourd'hui. Et donc, c'est la seule chose que je souhaiterais. Le reste, je pense que ça viendra ou non. Mais de aborder avec la même dédication, la même passion des choses tout le temps, et de ne pas perdre cette petite sparkle pour la recherche et les maths. C'est quelque chose que je souhaiterais nourrir et accomplir, que voilà, qui reste avec moi. Je souhaiterais aussi me concentrer un peu sur ma vie privée, et donc j'aimerais bien aussi accomplir certaines petites choses dans mon futur proche. Et aussi, du coup, même avec le nouveau défi de ce type, avoir toujours le même envie. Donc c'est quelque chose que je me souhaite et que je souhaiterais pour le futur.
Et bien c'est tout ce que je te souhaite alors. Merci beaucoup, Mélissa, c'était vraiment top.
Merci à toi.
Et voilà qui conclut cette jolie parenthèse en compagnie de Mélissa. J'ai vraiment adoré revivre à ses côtés son aventure scientifique depuis sa plus tendre enfance. Ce qui m'a marqué, c'est le fait qu'elle ait eu sur son parcours non pas un, mais plusieurs professeurs qui sont allés au-delà de ce qui était attendu d'eux et n'ont pas compté leur temps, leur énergie pour la stimuler, l'accompagner, l'aider à réaliser tout son potentiel. Elle est là où elle est aujourd'hui, évidemment par tout le travail qu'elle a fourni au fil des années, mais aussi un peu, et je suis sûre qu'elle sera d'accord avec moi, un peu grâce à eux. Beaucoup d'entre nous sont dans son cas d'ailleurs, et ont eu sur leur parcours des professeurs qui les ont marqués ont infléchi leur trajectoire, leur ont permis de se réaliser. Alors, je profite de cette outro pour tous les remercier. Pour être passé de l'autre côté, c'est parfois un crève-cœur de ne pas savoir ce que deviennent certains étudiants pour lesquels on s'est investi. C'est pourquoi c'est agréable de voir que, quelque part, on continue toujours un peu l'aventure avec eux. Je vous remercie pour votre écoute et d'être resté jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, une façon de me le faire savoir est de laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify, même si vous m'écoutez traditionnellement par d'autres canaux, et d'y mettre 5 étoiles. Ça prend très peu de temps, mais ça aide énormément dans le référencement du podcast. Je vous remercie d'avance. Comme toujours, c'était un plaisir. À bientôt dans le prochain épisode.